voix nue. Cette semaine, Aurélie Luneau rencontre Jean-Claude Amezen. Ce soir, l'humaniste au service de l'éthique.
Bonsoir Jean-Claude Amezen.
Bonsoir.
Nous déroulons le fil de votre vie toute cette semaine et votre parcours de médecin, immunologiste et chercheur, vos valeurs, votre humanisme, votre souci du respect des autres, l'attachement aux droits de la personne vous ont tout naturellement, on peut le dire, entraîné dans ce monde de l'éthique. En 2000, vous entrez au comité d'éthique de l'INSERM et ensuite, en 2005, c'est votre entrée au comité consultatif national d'éthique. Une autre façon d'aider et de célébrer la vie ?
J'ai toujours eu l'impression que ça soit en tant que médecin, en tant que chercheur ou lorsque j'ai contribué à la réflexion éthique, de poursuivre sous différentes formes une même activité à un même but. Alors, là aussi, il y a des hasards dans la vie. J'ai plongé dans le monde de la réflexion éthique collective lorsque j'ai écrit, à la fin des années 90, lorsqu'a été publiée La sculpture du vivant, il y avait, à la fin de ce livre, il y avait une interrogation éthique sur un certain nombre de points qui concernaient les relations entre la vie et la mort. Et le directeur de l'INSERM de l'époque, Christian Bréchaud, m'a demandé, à la lecture de ce livre, de venir rejoindre le comité d'éthique de l'INSERM. Les questions d'éthique biomédicale m'intéressaient et me préoccupaient depuis pas mal de temps, mais c'était une réflexion solitaire. Et donc, là, je me suis retrouvé dans un monde complètement nouveau, qui est le monde de la réflexion collective, avec une particularité. C'est qu'elle est collective, mais elle est collective et elle repose sur le croisement des regards. Et donc la démarche éthique biomédicale moderne, telle qu'elle est née en 1947 lors du procès des médecins nazis à Nuremberg, ce qu'on appelait le code Nuremberg, elle repose sur l'idée qu'une instance éthique, un comité d'éthique, n'a de légitimité que s'il inclut une expertise dans le domaine biologique et médical, puisqu'il s'agit d'examiner des questions biomédicales, mais que cette expertise qui est nécessaire n'est pas suffisante, et qu'un comité de ce type n'est légitime que s'il comporte aussi des sociologues, des philosophes, des anthropologues, des personnes appartenant à la société et qui viennent participer à la réflexion collective. Donc il y a cette idée que si on veut vraiment s'intéresser à des questions qui touchent au respect des droits de la personne, au respect de la personne, eh bien, il faut ouvrir la réflexion et ouvrir au plus les regards qui se croisent. Et donc, ça a été une expérience nouvelle, une expérience passionnante, qui me renvoyait, dans un autre contexte et sous une autre forme, à cette idée que j'avais depuis longtemps dans le domaine de la recherche, qu'une recherche féconde est une recherche pluridisciplinaire, où là encore on croise les regards, mais dans le but d'acquérir de nouvelles connaissances. Et là, c'était croiser les regards dans le but d'appliquer les avancées de la connaissance et de la technique au mieux du respect des personnes. Donc toujours cette idée qu'on est plus intelligent lorsque l'on voit les choses à partir d'angles différents.
Mais alors c'était quoi l'éthique ? Pour vous, avant d'entrer dans ces comités, et est-ce que vous aviez une idée justement du rôle d'un comité d'éthique ?
Je ne sais toujours pas, de manière précise, comment peut se définir une démarche de réflexion éthique. Comme je ne sais pas d'ailleurs comment définir précisément une démarche de recherche. Pour moi, il y a un lien entre les deux, mais sans doute en raison de mon parcours. Pour moi, Les deux démarches sont des démarches à la fois de respect et de transgression. La démarche de recherche scientifique, c'est une démarche de respect pour l'ensemble des connaissances acquises depuis longtemps. Et puis une démarche de transgression, c'est-à-dire le pari que le meilleur moyen de servir cette connaissance, c'est de la remettre en question et d'aller explorer l'inconnu pour en trouver de nouvelles. Et la démarche éthique, pour moi, elle est un peu du même ordre. C'est pas la démarche de morale, c'est pas la démarche des règles, c'est pas la démarche des lois, c'est une démarche de respect pour toutes les solutions qui ont été trouvées en termes de respect des droits de la personne, et une démarche de transgression qui consiste à penser que le meilleur moyen de respecter la personne, c'est de remettre en question les lois, les règles, les conduites morales qui ont été élaborées jusqu'à maintenant pour explorer l'inconnu et essayer d'en trouver des nouvelles. Et donc, je ne sais pas comment le définir. Il y a une définition, ou en tout cas une parole sur ce qu'est l'éthique de Paul Ricoeur, que je trouve très belle. Paul Ricoeur dit « On entre véritablement en éthique ». Donc, comme je ne sais pas déjà, je ne suis pas sûr de ce que c'est qu'entrer en éthique, entrer véritablement en éthique, c'est encore plus fort. Mais ce que dit Ricoeur, que je trouve très beau, c'est qu'on entre véritablement en éthique quand à l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit. « Je veux que ta liberté soit », ajoute Ricoeur. Et donc, je trouve que c'est une vision assez belle et assez originale de la liberté, qui ne consiste pas à juxtaposer les libertés, à dire que simplement la liberté de l'un s'arrête ou commence la liberté de l'autre, mais c'est une vision de la liberté comme une entreprise collective, comme quelque chose qui est au cœur de la relation. La liberté de l'un dépend de la liberté de l'autre, et donc les libertés, c'est quelque chose qui, l'idée même de liberté, c'est quelque chose qui n'est pas donné a priori, mais qui coévolue, qui bouge, qui change, qui, comme le disait Pascal, est une chose à la fois causante et causée. Ma liberté aide à la tienne, et la tienne aide à la mienne. Et comme je ne sais pas ce qu'est pour vous votre liberté, et que vous ne savez pas ce qu'est pour moi la liberté, eh bien c'est à la fois une démarche d'interrogation, d'écoute, d'attente, qui se construit. Et donc je trouve que cet accent mis sur cette idée de liberté, c'est-à-dire ce qu'Amartya Sen appelle les capacités ou les potentialités, hein, c'est-à-dire au fond ce que chacun porte comme devenir possible, faire en sorte qu'il ne soit pas contraint, qu'il puisse se réaliser dans le respect des autres.
Et est-ce que vous diriez, Jean-Claude Amezen, c'est vrai quand on pense à vous, on pense forcément aux chercheurs humanistes, est-ce que l'éthique et l'humanisme marchent forcément ensemble ?
Alors là encore, on pourrait discuter pour savoir ce qu'est l'humanisme, hein, ce qu'on appelle l'humanisme. Pour moi, l'humanisme renvoie à cette notion des humanistes de la Renaissance, hein, qui définissaient les humanités comme étant justement une approche qui était ouverte à la fois sur la connaissance, sur les sciences, mais aussi sur les arts, sur la philosophie, sur les spiritualités, et donc quelque chose qui envisage la personne dans sa plénitude. Pour moi, parce qu'il y a eu une tendance, ou il peut y avoir une tendance, à considérer que l'humanisme ou les humanités, c'est au fond ce qui concerne au sens très large la culture, et pas forcément les droits des personnes. Pour moi, l'humanisme, c'est ce qui est ouvert sur la personne et qui prend en compte ses droits, et qui prend en compte le respect de la personne. Et donc c'est une vision de la culture qui inclut le respect des droits. Vous savez, quand on fait l'histoire des sciences, on s'aperçoit que les choses avancent et que les connaissances évoluent. Quand on fait l'histoire de ce qu'on peut appeler la démarche éthique ou de la démarche de respect des droits fondamentaux, on s'aperçoit aussi que c'est une longue histoire, c'est une histoire difficile. Et pour moi, c'est un des rares progrès, hein, qui est toujours fragile, qui est toujours éphémère, qui n'est jamais universel. Quand on regarde l'histoire, si je le disais de manière très, très réduite, très, peut-être caricaturale, la première démocratie qui se dit démocratie occidentale, c'est Athènes. Et Athènes proclame que tout le monde est libre et égal, sauf les étrangers, sauf les esclaves et sauf les femmes. Beaucoup plus tard, en 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis se veut une proclamation universelle. Et elle déclare, là encore, l'égalité et la liberté, sauf celle des esclaves, sauf celle des femmes, et sauf celle des populations amérindiennes qui occupaient le territoire depuis très longtemps. Et puis la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'abolit pas l'esclavage, qui sera brièvement aboli par la terreur, et qui est une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et pas de la femme et de la citoyenne. Et donc il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour que l'esclavage soit aboli en France, et il faudra attendre le milieu du 20e siècle pour que la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, ait le droit de vote et de participer à la vie politique. Donc on s'aperçoit que cette notion de respect des droits fondamentaux de chacun est une notion qui a progressé extrêmement lentement. Il y a quelque chose de positif dans le fait de voir qu'elle s'est ouverte, qu'elle s'est élargie. Et il y a quelque chose de tragique à s'apercevoir que c'est extrêmement fragile et que dans beaucoup d'endroits dans le monde, aujourd'hui, ça n'est pas encore quelque chose qui est effectif. Mais l'idée même d'une déclaration universelle des droits de l'homme, hein, qui est faite en 48, un an après le code Nuremberg, dont je parlais tout à l'heure, on voit qu'il y a cette évolution, au moins dans au niveau des volontés et au niveau des représentations, et que c'est quelque chose qui n'est pas évident, et qu'il y a eu des époques. Aristote, qui est considéré comme un très grand philosophe et qui est remarquable à beaucoup d'égards, considérait ce qui était le reflet de son époque, qu'un esclave était esclave par nature et qu'un homme libre était libre par nature. Et c'était l'état des choses. Et donc, au fond, cette idée qui paraît très simple, de respecter les droits de chacun et de respecter le principe même d'égalité au-delà de son affirmation, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui ne va pas de soi et qui souvent, alors parfois il y a des gens qui sont exclus nommément, mais souvent toute une partie des populations sont exclues sans le dire parce que ça va de soi et qu'on n'y pense même pas. Et donc je crois que pour moi l'essentiel de ce qu'on appelle la démarche éthique, elle vise à reconnaître l'égalité et les droits égaux de chaque personne dans le monde.
Alors au cœur de ces comités d'éthique, Jean-Claude Amezen, et que vous avez présidé, hein, notamment de 2012 à 2016, le comité consultatif national d'éthique, quelles ont été vos priorités et quelles sont-elles peut-être encore aujourd'hui ?
Les personnes en situation de handicap, les personnes en prison, les personnes atteintes de maladies psychiatriques, les personnes en fin de vie qui sont abandonnées. Je veux dire, dans tous ces cas, c'est la détresse et l'abandon, hein, qui me paraissent des situations scandaleuses. Et donc, on a fait un avis il y a 10 ans sur la situation des personnes atteintes d'autisme. Mais c'était à la fois une situation scandaleuse, qui l'est toujours actuellement, mais c'est aussi le reflet de la façon dont notre société exclut, abandonne des personnes en situation de handicap, quels que soient ces handicaps. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que il y a d'autres pays, on n'arrive pas dans notre pays, bien que des efforts soient faits, à scolariser la plupart ou la totalité des enfants en situation de handicap. Des pays extrêmement différents, comme l'Italie et la Suède, on réussit avec des approches différentes à scolariser la totalité des enfants en situation de handicap, que les handicaps soient moteurs, que les handicaps soient sensoriels, ou que les handicaps soient intellectuels, affectifs ou relationnels. Et donc les méthodes sont différentes. En Italie, la classe qui accueille un enfant handicapé, son effectif est divisé par 2 et un enseignant formé est rajouté. En Suède, chaque enfant en situation de handicap dans une école normale, habituelle pour tous les enfants, est accompagné par une accompagnatrice ou un accompagnateur auxiliaire de vie scolaire à plein temps, en permanence. Et donc, on peut le faire. Et je crois que la raison pour laquelle on ne le fait pas en France, c'est fondamentalement, indépendamment des obstacles, indépendamment des questions de formation des personnes et de salaire, etc., c'est des questions culturelles. C'est-à-dire que l'acceptation de personnes en situation de handicap dans la vie de tous les jours pose un problème. Et donc, on les isole en les excluant de l'école, mais on les isole en les mettant en institution. On les isole quand elles sont âgées. Quand vous êtes une personne âgée, handicapée ou malade, on vous envoie dans un EHPAD. Si on va plus loin et qu'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, en Suède, il est interdit depuis les années 90 d'isoler une personne en situation de handicap, quelle que soit la nature du handicap, dans une institution, que ce soit un EHPAD ou une institution, parce qu'on considère, la loi considère, que même pour lui rendre service, envoyer une personne à l'extérieur de la société pour l'accompagner, c'est la priver de ses droits civiques fondamentaux qui sont de vivre avec les autres, parmi les autres. Et donc ce qui se passe en Suède depuis les années 90, c'est que toute personne, qu'il s'agisse d'une personne en atteinte de trisomie 21, qu'il s'agisse d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, qu'il s'agisse d'une personne qui a eu un traumatisme crânien, peu importe la source du handicap, est accompagnée chez elle ou dans un appartement où elle vit avec 4 ou 6 autres personnes handicapées ou dans une petite maison à l'intérieur de son village ou de sa ville. Et on vient l'accompagner chez elle et on lui permet de participer à la vie collective. Ça n'est pas la personne qu'on envoie ailleurs pour qu'elle puisse être accompagnée. Et donc cette question de permettre à des personnes vulnérables de pouvoir vivre avec les autres et parmi les autres, de la petite enfance jusqu'au grand âge, est un des problèmes majeurs que nous avons dans notre pays, que souvent nous exprimons sous forme, et je l'ai souvent entendu, on n'a pas assez d'argent pour ça, les Suédois sont très riches, nous on l'est pas. Alors que les calculs qui ont été faits, par exemple, en ce qui concerne l'accompagnement de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou d'autres handicaps, soit dans des institutions comme chez nous, où d'ailleurs les places manquent cruellement, hein, puisque vous savez qu'on en est encore à envoyer des enfants atteints d'autisme en Belgique, pour qu'on les accompagne en Belgique, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on délocalise des personnes handicapées parce qu'on n'est pas capable de les accompagner chez nous. Non seulement les institutions sont n'ont pas de place suffisante, mais les calculs qui ont été faits en Suède, au Danemark, au Canada, dans d'autres pays, montrent que ça n'est pas plus cher d'accompagner des personnes chez elles ou dans un environnement près de chez elles, que de les accompagner en institution. Et donc, c'est pas fondamentalement un problème financier ou économique. Je pense que c'est un problème culturel qui fait qu'on a beaucoup de mal. Et je crois que exclure des enfants dès l'école, eh bien, rend leur inclusion plus tard extrêmement difficile. Parce que ça veut dire que beaucoup d'enfants ont grandi, la plupart des enfants ont grandi et vécu jusqu'à l'âge adulte, sans jamais être en contact avec une partie de la population. Donc je crois que c'est... Nous avions conclu notre avis en 2007 sur la situation des personnes atteintes d'autisme en France, de mémoire en disant qu'une société qui exclut les personnes les plus vulnérables, en raison même de leur vulnérabilité, est une société qui perd son humanité. Il y a une autre situation scandaleuse, c'est que les personnes, et je le disais tout à l'heure pour les EHPAD, qui accompagnent les enfants handicapés, les adultes handicapés, les personnes qui ont des maladies chroniques, les personnes dans les EHPAD, sont le plus souvent très mal payées, sur des statuts précaires, et non ou mal formées. Et donc ce sont des personnes elles-mêmes vulnérables. Et c'est comme si notre société disait, c'est à la portion la plus vulnérable de notre société de s'occuper des personnes vulnérables. En gros, occupez-vous les uns les autres, ça ne nous regarde pas. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça n'est évidemment pas le seul problème éthique et de loin, mais je crois que c'est un marqueur, un symbole de la façon dont notre société accompagne les personnes vulnérables. La fin de vie, le déficit profond en accompagnement et en soins palliatifs est du même ordre. Hein, c'est-à-dire le fait que paradoxalement, plus une personne est vulnérable, et moins elle a de probabilité d'être traitée comme les autres et d'être considérée comme les autres. La façon dont on se comporte dans notre société reflète et traduit la façon dont on considère l'humanité entière. Parce que si dans un pays, si dans une société particulière, on crée des cloisonnements, des exclusions et des inégalités, il n'est pas étonnant qu'au niveau de la vision qu'on a de l'humanité entière, on ne se considère pas comme une partie d'une commune humanité, mais qu'on va continuer à décliner ces mêmes représentations et ces mêmes comportements au niveau du monde. Donc je crois que si on veut construire une humanité qui soit véritablement une humanité dans laquelle chacun puisse vivre au mieux et cohabiter avec les autres, eh bien il faut commencer chez nous, il faut commencer à l'école, il faut commencer à l'hôpital, il faut commencer dans nos villes et nos villages. Et c'est comme ça que, petit à petit, on peut construire le modèle de ce qu'on voudrait voir à une plus grande échelle. Et si je reviens à la notion d'instance éthique et de comité éthique, il y a pas simplement l'activité qui est faite, il y a une espèce d'exemple qui est donné en disant que lorsque on réfléchit au meilleur moyen de respecter la personne quand on applique les avancées de la biologie et de la médecine, lorsqu'on dit qu'il faut réfléchir tous ensemble et ouvrir les regards, c'est d'une certaine façon une façon de dire qu'une démocratie vivante, dans laquelle chacun participe à la réflexion est le meilleur moyen d'être sûr qu'on va respecter chaque personne. Lorsque vous ouvrez les regards, vous êtes plus intelligent. Ce qui m'a souvent frappé au comité, c'est que ce qui est intéressant, mais ce qui ne se passe pas toujours, c'est lorsque des personnes diverses vont arriver à une réflexion qu'aucun des participants n'avait au départ. Et que donc, au fond, en réfléchissant ensemble, eh bien, on arrive quelque part où personne, aucun des participants ne serait allé tout seul. Et je pense que c'est la même chose au niveau d'une société, et c'est la même chose au niveau de l'humanité. C'est-à-dire, si on fait appel à toutes les intelligences, eh bien, on peut réfléchir de manière plus ouverte que si on se contente d'un petit nombre d'experts. Et moi, je crois que ce qu'on a décidé de faire à la fin des années 40 en matière d'éthique biomédicale, eh bien, gagnerait à être fait dans d'autres domaines, comme le domaine des décisions économiques, d'autres domaines qui touchent au respect des droits et de la vie des personnes. Si ce qui a été fait en éthique biomédicale a un sens, dans un domaine qui, a priori, vise à soulager la souffrance et aider chaque personne, qui est le domaine biomédical, eh bien, ça a un sens dans d'autres domaines aussi. Et donc, je crois que ça a valeur d'exemple. Et que ça a valeur d'exemple dans ce qu'on appelle une démocratie participative, ce qui me paraît assez redondant, parce que pour moi, une démocratie, c'est justement une façon de vivre en société à laquelle chacun participe. Mais dans notre pays, on a l'habitude de parler de débat démocratique en opposant des opinions qui sont déjà établies et en disant qu'on va choisir entre ces opinions. Dans d'autres pays, et en matière de réflexion éthique, on considère le Danemark, par exemple, qui fait des conférences citoyennes depuis très longtemps pour tous les problèmes importants, on considère qu'un débat démocratique, c'est pas opposer des idées déjà préétablies et choisir, c'est faire une réflexion collective sans savoir où elle va nous mener et pouvoir profiter de ce qui a émergé de cette réflexion collective pour construire l'avenir.
Dans ce cadre-là, Jean-Claude Amezen, en parlant du monde médical, du cloisonnement aussi, de cette volonté d'ouvrir la réflexion, il y a l'histoire de votre frère Olivier, un médecin cardiologue, qui a certainement suscité en vous différents sentiments, puisque ça posait là, justement, cette question de la réflexion ensemble sur l'addiction et sur l'influence ou pas ou d'un médicament, le baclofène, comme une solution possible. Ça a été douloureux, je crois.
Oui, alors ça a été très douloureux parce que c'est une histoire personnelle, parce que mon frère, avec lequel j'étais très lié, qui est parti aux États-Unis, qui était cardiologue aux États-Unis, a sombré dans l'alcool, au point qu'il a dû abandonner ses activités et revenir en France. Il avait essayé des cliniques de désintoxication, alcoolique anonyme, etc., etc. Et puis, un jour, il apprend qu'il y a peut-être un médicament qui lui permettrait de sortir de cet alcoolisme. Et il commence à se traiter. C'est un médicament dont les publications avaient montré que c'est un des seuls médicaments qui, chez des petits animaux, les rats, permettait de supprimer la dépendance, c'est-à-dire que des rats rendus alcooliques ou héroïnomanes, eh bien, à partir d'une certaine dose de médicaments, arrêtaient de prendre leur drogue. Et c'était dose dépendant. Et donc il s'est dit, c'est la même chose qui doit marcher pour moi. Et donc il a augmenté les doses de cette molécule, du baclofène, qui était un médicament utilisé depuis très longtemps pour traiter des spasmes musculaires dans la sclérose en plaques ou dans d'autres pathologies. Ce qui est le problème majeur dans l'addiction, et qu'on appelle en anglais le craving, c'est l'envie irrépressible de prendre sa drogue. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser à rien d'autre qu'à ça. Et donc ça occupe toute la journée, même pour les gens qui veulent arrêter de boire s'ils sont profondément alcooliques. Ça veut dire qu'ils sont obligés de penser toute la journée au fait qu'il ne faut pas boire. Ce qui veut dire que c'est difficile de penser à autre chose. Et un jour, il s'aperçoit qui passe devant un bar, je crois, ou devant une réclame pour une affiche pour une boisson, et que ça ne lui fait rien. Et donc, il a commencé à écrire. En quelques mois, je veux dire, j'ai vu une espèce de résurrection que je ne croyais pas possible. Je pensais que s'il n'arrêtait pas de boire, il allait mourir. Mais je ne pensais pas qu'il reviendrait à ce point. Et donc, ça a été vraiment quelque chose de bouleversant. Et puis après, il a commencé à écrire son livre. Donc ça, c'est le milieu des années 2000.
Alors c'est la renaissance de votre frère Jean-Claude Amezen, mais c'est aussi le début d'une polémique.
Alors c'est le début d'un combat, pour lui, qui est un combat qui est de faire en sorte que l'indication de ce médicament, du baclofène, dans le traitement de l'alcoolisme grave, de la dépendance grave, soit acceptée, et d'abord soit propagée. Et donc des médecins se mettent à prescrire. Il y a une très grande résistance de la part des alcoologues, des addictologues, c'est-à-dire des spécialistes, de la part d'un certain nombre de médecins, de la part des agences de réglementation. Et ce qui m'a frappé, c'est d'abord, et je reviens à c'est un écho de ce que je disais sur le handicap dans une configuration très différente, c'est l'espèce de mépris, d'abandon, d'indifférence pour ce qui est considéré en fait comme une maladie dont sont responsables ceux qui en sont atteints, qui est l'alcoolisme, c'est-à-dire au fond ce sont de pauvres personnes qui sont même pas capables de ne pas trop boire, et donc au fond d'une certaine façon elles sont responsables. Et puis c'est pas possible pour quelque chose qui est psychique, qui est de l'ordre du trouble psychiatrique et de l'autodestruction, qu'un médicament puisse à lui seul faire quelque chose d'important. Non pas traiter tous les problèmes qu'avaient les personnes, mais leur enlever l'envie de boire. Et donc il y a à la fois un scepticisme sur le fait qu'il puisse y avoir un traitement, puisqu'on sait que de tout temps, on n'a jamais guéri l'alcoolisme, donc pourquoi est-ce que ça serait aujourd'hui? Et puis il y a aussi une indifférence pour ces malades, qui après tout sont des malades. Chaque société, à chaque époque, a ces maladies honteuses, ou ces maladies où les malades sont considérés comme responsables ou coupables de leur maladie. Et ça a été d'ailleurs de manière tragique au début de la pandémie du sida, ce qui s'est aussi passé. Et donc, j'ai découvert quelque chose qui là était choquant, d'un point de vue du frein, de la prise en compte de l'importance des avancées de la recherche ou de la médecine par rapport à ce qu'on fait dans d'autres domaines. Donc ça a été quelque chose de très complexe, ça a été une découverte scientifique remarquable pour mon frère. Il est mort d'un infarctus il y a maintenant 5 ans, et je pense que ce combat et l'hostilité à laquelle il se confrontait l'a énormément usé. Donc j'ai du mal, à titre personnel, à faire la part entre ce qui est d'ordre personnel, de l'ordre de l'exploit, de l'ordre de l'aventure héroïque, et puis de ce que ça traduit d'assez désastreux dans la façon dont notre société, encore une fois, écoute, accompagne, aide des personnes extrêmement vulnérables. Sans doute ma réflexion éthique ou mon implication éthique était d'autant plus difficile que ça me touchait personnellement, et que autant j'en parlais continuellement avec mon frère et avec un certain nombre de médecins et de chercheurs qui étaient pionniers dans ce domaine, autant il m'a été difficile d'intervenir publiquement parce que je considérais que je n'avais pas la distance suffisante pour intervenir comme j'intervenais dans d'autres domaines.
Merci Jean-Claude Amezen, on se retrouve demain pour le dernier volet de notre série d'entretiens et sur vos épaules pour découvrir votre rapport au vivant et à l'environnement. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Aurélie Luneau avec Jean-Claude Amezen. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Yves Lehorse, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.